Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et Jean-Pierre Foultier qui est évidemment avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors, c'était Ulysse, le héros de l'Odyssée d'Homère, qui était, on s'en souvient, notre figure de l'imaginaire européen la semaine dernière. Reste à savoir quelle sera celle de cette chronique.
Une figure double en quelque sorte, puisque Roméo est inséparable de Juliette, évidemment. Et Juliette inséparable de Roméo, bien sûr. C'est à ce couple mythique de la culture européenne que je consacrerai celle d'aujourd'hui, et dont j'avais parlé à ce micro il y a des 5 ans.
Oh mon Dieu.
Si vous le voulez bien, c'est sur la douce musique de Nino Rota pour le film de Franco Zeffirelli de 1968 que je vous propose d'évoquer la belle et triste destinée des amoureux les plus célèbres du monde.
Nous voilà plongés dans l'ambiance romantique de Roméo et Juliette, bande originale donc du film de Franco Zeffirelli. Bonne idée, peut-être d'ailleurs, de revoir ce film.
Oui, un beau film qui a eu l'originalité par rapport aux nombreux autres tournés sur le sujet, depuis celui de George Cukor en 1936 ou celui de Renato Castellani en 1954, de faire incarner les deux personnages par des acteurs qui ont vraiment l'âge du rôle, c'est-à-dire deux adolescents de 16 et 15 ans. Plus tard, en 1996, c'est Leonardo DiCaprio et Claire Danes qui seront les protagonistes dans un décor américain urbain et violent du film Roméo plus Juliette. C'est d'ailleurs le choix qu'avaient fait 40 ans auparavant Leonard Bernstein et Stephen Sondheim dans la comédie musicale qui deviendra un film en 61, le célébrissime West Side Story. Transposition urbaine où les Capulet et les Montaigu seront les Sharks et les Jets, deux bandes rivales. Roméo sera Tony et Juliette Maria. Ah, Maria. Interprété par Natalie Wood.
Et la version Steven Spielberg plus récente que l'on peut découvrir
tout
aussi.
À fait.
Alors vous nous parlez de films américains, mais Roméo et Juliette donc seraient bien européens.
Bien sûr, et plusieurs fois même. Le créateur des personnages est bien entendu le grand dramaturge anglais William Shakespeare, qui l'écrivit dans les années 1590. Mais l'histoire se situe dans l'Italie de la fin du Moyen-Âge, dans la ville de Vérone, où la famille Montaigu, à laquelle appartient Roméo, voue une haine séculaire à celle des Capulet, la famille de cette Juliette qu'il rencontrera au cours d'un bal et dont il deviendra éperdument amoureux et réciproquement. L'Angleterre, l'Italie et même la Grèce, où Shakespeare, mais d'autres auteurs moins célèbres, l'avaient fait avant lui, étaient allés chercher son inspiration, notamment chez Xénophon d'Éphèse, dont les personnages Antia et Abrocomès préfiguraient dès l'Antiquité le stéréotype de l'amour impossible, comme le seront Pyramétis B dans les Métamorphoses du poète latin Ovide.
Le thème de l'amour impossible, dites-vous.
Oui, impossible parce que trop pur, ignorant des considérations ethniques, religieuses ou de classe. Et d'ailleurs, les amants de Vérone sont en quelque sorte les cousins d'autres couples célèbres de la littérature ou de l'opéra européen. Tristan et Isolde dans l'opéra de Wagner tiré d'une légende celtique médiévale, ou la transposition de ce mythe dans le Péléas et Mélisande de Claude Debussy. Dans tous les cas, la confrontation à la réalité sociale conduira ces couples au tragique.
Alors vous nous rappelez peut-être la suite de l'histoire de Roméo et Juliette ?
Oui. À la suite de la rencontre au bal, donc, Roméo déclare sa flamme à Juliette depuis la fameuse échelle appuyée au balcon de la Belle. Les deux jeunes gens s'unissent en secret, mais la haine viscérale des deux familles se déchaîne et Roméo doit s'exiler. Pour éviter d'être mariée à un autre, Juliette se soumet à une ruse. Elle absorbe une potion qui lui donne l'apparence de la mort et elle est ensevelie dans le caveau familial. On connaît la suite. Roméo, qui n'a pu être mis au courant du stratagème, se donne la mort près du corps de sa bien-aimée. Celle-ci se réveille alors et, désespérée, se tue avec le poignard de son amant.
C'est autre chose que les rencontres sur Mythic et Tinder hein, d'aujourd'hui. Tragique, en tout cas, cette issue.
Les histoires d'amour finissent mal, en général.
C'est ce que dit la chanson.
Vous connaissez cette sentence, oui, rendue célèbre par une certaine chanson. L'amour et la mort sont, depuis l'Antiquité, très liés dans la littérature européenne. Et le suicide d'héroïne en est un thème récurrent. Dans une des grandes tragédies classiques de Jean Racine, c'est Phèdre qui se donne la mort, seule expiation possible de son amour coupable pour Hippolyte. Au XIXe siècle, âge d'or du romantisme, la mort de l'héroïne est un incontournable. À l'opéra, ce sont les derniers soupirs en musique de la Traviata dans l'opéra de Verdi, d'après la Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, ou de la Mimi de la Bohème de Puccini. Deux suicides d'héroïnes ont marqué la littérature des années 1850 à 1870. Celui d'Emma Bovary, dans le roman de Flaubert de 1854, après une vie d'amoureuse romantique gâchée et les dettes considérables qu'elle a accumulées, Flaubert sera condamné pour cette histoire jugée immorale. C'est aussi celui d'Anna Karénine, l'héroïne du roman éponyme du russe Léon Tolstoï en 1877. La scène finale devenue culte où Anna, en proie aux plus vifs tourments et à la déchéance qu'a provoqué sa passion coupable de femme mariée et mère de famille pour un jeune et beau militaire, se jette sous un train. Son histoire sera le sujet d'un nombre incalculable d'adaptations théâtrales et de films au XXe siècle.
Alors vous avez parlé d'opéra, est-ce que Roméo et Juliette a été aussi adapté à l'opéra ?
On en compte près de 25.
Ah oui.
Et aussi des symphonies ou des ballets. Je vous en donne quelques exemples. En 1839, le français Berlioz en fait une symphonie dramatique et son compatriote Charles Gounod en 1867 un opéra. À la même époque, c'est le russe Tchaïkovski qui compose un poème symphonique du même nom. Et sans nous éloigner beaucoup, avançons jusqu'au XXe siècle avec son compatriote Sergueï Prokofiev qui compose en 1935 la musique du ballet Roméo et Juliette dont je vous propose d'écouter un extrait. C'est sur ce thème de la danse des chevaliers que se clôt notre chronique consacrée à Roméo et Juliette, ces icônes européennes d'un amour romantique qui n'a rien de mièvre à l'image de cette musique énergique de Prokofiev.
Et on est donc paré pour la Saint-Valentin, c'est parfait, la semaine prochaine du coup.
Que diriez-vous d'une plongée dans l'univers des fées et du merveilleux, oh, Sébastien ?
Un peu de douceur, c'est peut-être le moment d'exaucer des vœux, je ne sais pas, on verra ça la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, Jean-Pierre, bonne semaine.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 rue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.